7. Avant que je puisse poser d'autres questions, j'en avais des milliers, les loups se mirent de la partie. Ils étaient nombreux et ils hurlaient à tue-tête. Je voyais le clair de lune briller entre deux planches qui s'étaient écartées. Soudain, un choc ébranla le côté de la maison avec une telle violence que tout trembla. Radar se dressa sur ses pattes, oreilles dressées. Il y eut un deuxième choc, puis un troisième, puis deux simultanés. Un bocal tomba d'une des étagères et je sentis l'odeur de la saumure. Je dégainai l'arme de M. Boditch en pensant « Ils vont souffler, souffler et détruire sa maison. »
« Non, non, non !»
s'écria Claudia. Elle semblait presque se réjouir.
« Suis-moi, Sarli ! Tu vas voir ce que m'a apporté Adrian !»
Elle écarta le rideau de velours et me fit signe d'entrer. Si la grande pièce était bien rangée, il n'en allait pas de même de la chambre. Je n'irai pas jusqu'à traiter Claudia de souillon, mais vous savez quoi ? Je crois que si, j'irai jusque-là. Deux édredons froissés s'entassaient au pied du lit. Le sol était jonché de pantalons, de chemises, de sous-vêtements qui ressemblaient à des culottes bouffantes en coton et de nuisettes. Claudia les écarta avec son pied pour m'entraîner vers le fond de la pièce. Je m'intéressais moins à ce qu'elle voulait me montrer qu'à l'attaque des loups, car il s'agissait bel et bien d'une attaque. Les assauts portés contre la frêle maison de bois se succédaient de manière presque ininterrompue désormais, et je craignais qu'ils se poursuivent même si les nuages masquaient les deux lunes. Les loups étaient déchaînés, assoiffés de sang. Claudia ouvrit une porte, laissant apparaître une petite pièce pas plus grande qu'un placard qui abritait des toilettes sèches provenant certainement de mon monde.
« Les chiottes !» précisa-t-elle. « Si tu as besoin de te lever cette nuit, n'aie pas peur de me réveiller. Je dors comme une souche. »
Je n'en doutais pas, étant donné qu'elle était sourde comme un pot. Mais je me disais que je n'aurais plus besoin d'aller aux toilettes si les loups réussissaient à s'introduire dans la maison. Ni ce soir, ni jamais. J'avais l'impression qu'ils étaient des dizaines dehors à essayer d'entrer pendant que Claudia m'offrait une visite guidée.
« Maintenant, regarde bien !»
Avec le talon de sa main, elle fit coulisser un panneau à côté des toilettes. Derrière se trouvait une batterie de voiture frappée du logo Acedelco sur le côté. Des câbles de démarrage étaient fixés aux deux bornes. Eux-mêmes étaient reliés à une sorte de transformateur d'où sortait un autre câble relié à ce qui semblait être un banal interrupteur. Claudia affichait un sourire jusqu'aux oreilles.
« Quand Adrian m'a apporté ça, ces putains de loups n'ont pas du tout aimé !»«
Les lâches offrent des cadeaux, pensais-je. » Elle abaissa l'interrupteur. Le résultat fut un vacarme assourdissant, un concert d'alarmes de voiture amplifié 50 ou 100 fois. Je plaquai mes mains sur mes oreilles de peur de devenir aussi sourd que Claudia. Après 10 ou 15 interminables secondes, elle releva l'interrupteur. Je décollai mes mains de mes oreilles, prudemment. Dans la grande pièce, Radar aboyait comme une folle, mais les loups ne hurlaient plus.
« Si, haut-parleur, ces salopards vont décamper dans les bois comme s'ils avaient la queue en feu! Qu'est-ce que tu dis de ça, Sarli? C'était assez fort à ton goût ?»
Je fis oui de la tête en tapotant mes oreilles. Rien ni personne ne pouvait supporter ce tir de barrage sonore.
« Dommage que j'entende rien, mais je le sens dans mes dents
!» J'avais gardé le bloc-notes et le stylo. J'écrivis quelque chose que je lui montrais. « Que se passe-t-il quand la batterie est déchargée ?» Elle réfléchit, sourit et me tapota la joue.
« Je t'offre le gîte et le couvert, et en échange, tu m'en apportes une autre. Ça te semble équitable, jeune prince ? Moi, oui. »
8. Je couchais près du poêle, comme chez Dora. Cette nuit-là, pas d'insomnie passée à réfléchir à ma situation. Claudia me donna une pile de serviettes propres en guise d'oreiller, et à peine y avais-je posé la tête que je dormais déjà. 2 secondes plus tard, telle fut mon impression, elle me secoua pour me réveiller. Elle portait un long manteau orné de papillons, encore l'œuvre de Dora.
« Quoi ? »
fis-je.
« Laisse-moi dormir. »
« Non, non, non !»
Elle avait beau être sourde, elle m'avait très bien compris.
« Debout, Sarli ! Tu as encore un long chemin devant toi. Il est temps de t'y mettre. Et puis, je veux te montrer quelque chose. »
J'essayais de me recoucher, mais elle m'obligea à me redresser.
« Ta chienne t'attend. Je suis levé depuis 1 heure au moins. La chienne aussi. Je lui ai redonné une dose de potion et elle est toute guillerette. Regarde !»
Posté à côté d'elle, Radar remuait la queue. Voyant que je la regardais, elle enfouit sa truffe dans mon cou et me lécha la joue. Je me levai. J'avais mal aux jambes et encore plus dans les bras et les épaules. Je les fis pivoter et exécuter une dizaine de mouvements, d'enroulements, comme on le faisait à l'entraînement avant le début de la saison de football.
« Va faire ce que tu as à faire. Je te prépare quelque chose de chaud pour après. »
Je me rendis dans la minuscule salle de bain, où Claudia m'avait laissé une bassine d'eau tiède et un petit morceau de savon jaune. Après avoir uriné, je me lavais les mains et le visage. Un fragment de miroir carré était fixé au mur, à peine plus grand qu'un rétroviseur de voiture. Il était rayé et terne, mais en me penchant, je pouvais m'y voir. Je me redressais, me tournais vers la porte, puis regardais de nouveau dans le miroir. Il me semblait que mes cheveux châtains s'étaient un peu éclaircis. Ça arrivait souvent en été, après plusieurs jours passés au soleil, mais il n'y avait pas de soleil ici, uniquement des nuages bas. Sauf la nuit, évidemment, quand il s'écartait pour laisser briller le clair de lune. Je mis ça sur le compte de la mauvaise lumière dispensée par la lampe à pétrole et du morceau de miroir terni. Lorsque je ressortis de la salle de bain, Claudia me tendit une épaisse tranche de pain qui enveloppait une double portion de brouillé. Je l'engloutis. J'avais une faim de loup, si je puis dire. Claudia me donna mon sac à dos.
Je t'ai mis de l'eau et du thé froid. Du papier et un stylo aussi, au cas où. Ta charrette reste ici.
Je secouai la tête et mimai le geste de soulever les ridelles.
Non, non, non. Tu la reprendras quand tu me rapporteras mon tricycle.
Je ne vais pas emprunter votre tricycle. Elle s'était retournée et elle ne m'entendit pas.
Viens, Sarli. L'aube va se lever. Faut pas que tu loupes ça.
Je la rejoignis sur le seuil en espérant qu'elle n'allait pas ouvrir la porte à une meute de loups voraces. Heureusement, il n'y en avait aucun. Et en direction de ce que le gamin avait appelé la ville hantée, les nuages s'étaient dissipés et j'apercevais un éparpillement d'étoiles. Le tricycle XXL de Claudia attendait au bord de la route du royaume. Le panier fixé à l'arrière avait été tapissé d'un carré d'étoffe blanche et douce qui ressemblait à du molleton. Et je compris qu'il était destiné à accueillir Radar. Pédaler sur le tricycle serait beaucoup plus rapide et facile que de tracter la charrette avec Radar dedans. Mais il y avait mieux encore. Muni d'une lampe à pétrole, Claudia se pencha vers l'énorme roue avant.
Adrienne m'avait apporté ses pneus aussi, en caoutchouc. J'en avais entendu parler sans jamais en avoir vu. Une magie de ton monde, Sarli. Une magie silencieuse.
Je me laissais convaincre. Je n'avais plus à m'inquiéter du fracas des roues en bois sur les pavés. Je montrais le tricycle, je me montrais du doigt, je tapotais ma poitrine au-dessus de mon cœur. Je vous le rapporterai, Claudia. Promis.
Tu me le rapporteras, jeune prince Sarli. J'en suis certaine.
Elle me donna une petite tape dans le dos et une grande claque sur les fesses, tout naturellement, et cela me rappela le geste du coach Harkness lorsqu'il m'envoyait en défense ou me désignait comme batteur.
« Regarde-moi ce ciel éclatant !»
Ce que je fis. Alors que les étoiles pâlissaient, le ciel au-dessus de la ville de Lilimar prenait une magnifique couleur pêche. Une couleur qui existait peut-être sous les tropiques au lever du jour, mais je n'avais jamais rien vu de semblable. Assise entre nous, Radar leva la tête et huma l'air. N'eût-ce été le pu qui sortait de ses yeux et sa maigreur, j'aurais juré qu'elle était en pleine forme.
Qu'est-ce qu'on cherche ?
Là encore, Claudia ne répondit pas car elle ne m'avait pas vu poser la question. Elle contemplait la ville, où les tours et ses trois flèches se dressaient en ombre chinoise sur le fond du ciel qui s'éclaircissait. Je n'aimais pas l'aspect de ces flèches de verre, même à cette distance. Leur configuration leur donnait vaguement l'apparence de visages tournés vers moi. Ce n'était qu'une illusion, me dis-je pour me rassurer, comme de voir une bouche béante dans un nœud sur le tronc d'un vieil arbre, ou un dragon dans un nuage, mais ça ne servit à rien. Loin de là, l'idée, ridicule assurément, s'insinua en moi que cette ville elle-même était Gog Magog, douée de sensations, aux aguets, maléfique. La perspective de m'en approcher était terrifiante. La perspective d'utiliser le nom de Léa pour franchir la porte l'était plus encore. « Monsieur Bodic l'a fait et il est revenu, » me dis-je. « Tu peux y arriver, toi aussi. » Néanmoins, j'avais des doutes. La cloche émit son unique longue note monotone et métallique. « Dong !» Radar se dressa aussitôt sur ses pattes et fit un pas en direction du son.
« Première cloche, Sarli !»
Je levai l'index et confirmai d'un hochement de tête. Alors que le son de la cloche résonnait encore, il se produisit une chose bien plus incroyable qu'un cafard géant ou un énorme criquet rouge. Le ciel au-dessus des masures et des cottages délabrés aux abords de la ville s'assombrit, comme si on tirait un rideau. J'agrippai le bras de Claudia. L'espace d'un instant, je craignis d'assister à une éclipse, pas de lune ni de soleil, mais de la terre elle-même. Puis, lorsque l'écho de la cloche mourut, l'obscurité se morcela en 10 000 crevasses lumineuses qui palpitaient et changeaient de couleur, noires et or, blanches et oranges, pourpre royal le plus profond. C'étaient des papillons monarques, de la taille d'un moineau, mais si fragiles et éphémères que la lumière du jour les traversait autant qu'elle les enveloppait.
« Ave Empis !»
s'écria Claudia, les mains levées vers le torrent de vie qui se déversait au-dessus de nous. Un torrent qui masqua la silhouette des constructions de la ville et les visages que je croyais avoir vus.
« Ave les Galiens ! Puisse-t-il régner de nouveau et pour toujours ?»
Si forte soit sa voix, je l'entendais à peine. J'étais hypnotisé. Jamais je n'avais vu un spectacle aussi étrangement surréaliste et aussi beau. Les papillons assombrirent le ciel en passant au-dessus de nos têtes pour voler vers on ne sait quelle direction. Et, en sentant le souffle de leurs ailes sur mon visage, je finis par accepter, totalement et entièrement, la réalité de cet autre monde. Le monde d'Empis. Je venais d'un monde imaginaire. La réalité était ici.